France Inter.
Salut Fred, c'est Mils de la cave du Mils. J'espère que tu vas bien. C'est toujours un plaisir de re-signer pour une nouvelle saison 2. Blockbuster. Malheureusement, bon, on a un petit goût amer parce qu'effectivement, c'est la dernière. Mais bon, c'est pas grave, on va s'y faire. Merci pour cet épisode sur Code Quantum. S'il y a bien une chose que je dois dire, c'est que c'est toi, la personne la plus intemporelle. Pas besoin d'aller dans le futur, pas besoin d'aller dans le passé, on est dans le présent avec toi. Et ça, ça fait plaisir. Bon, c'est peut-être un petit peu trop. En tout cas, je te souhaite une excellente saison et nous lâche pas pour les comics. Hein. Bisous.
Oui, Frédéric, c'est Tony dans sa voiture. Et bah, ça y est. C'est fait. Il a fallu que j'attende la fin de la saison pour enfin être en avance sur toi. Parce que clair-obscur, moi je l'ai déjà tout bouffé. Je me suis pris une grosse claque, autant sur le jeu, la musique. Et donc c'est pas cette année où je vais perdre peut-être 50 ou 80 heures de ma vie à rejoindre une thématique que tu nous présentes. Donc voilà. Merci quand même. Et puis bah sur ce coup-là, fais-moi quelques coups d'avance. Salut!
C'est le retour de Blockbuster, c'est le retour de Blockbuster.
Mais bonjour Frédéric, Fabrice, écoute, un grand merci pour toutes tes émissions, et puis aussi pour celle d'hier, la Claire Obscure, parce que mes fils m'ont offert ce jeu pour la fête des pères. À chaque fois, ils me demandent si j'ai commencé, et ben, depuis que j'ai écouté ton émission, je vais m'y mettre dès ce soir. Merci, bon courage, au revoir.
To be or not to be, not to be.
Vous connaissez le podcast C'est plus que de la SF ? C'est un très bon podcast sur la science-fiction produit par le camarade Lloyd Cherry, qui est un passionné de longue date par les dystopies et autres uchronies couchées sur papier. Alors, si en plus vous passez par Angoulême, je vous invite à aller voir une formidable exposition sur l'ASF, elle aussi, au musée de la BD organisée par Julie Sicomaillet et Lloyd également, avec tout un tas de planches plus belles les unes que les autres, dessinées par les plus grands dessinateurs et dessinatrices de science-fiction. Franchement, c'est à ne pas rater. Déjà, de un, parce que c'est beau, mais aussi parce qu'en regardant ces dessins, on s'aperçoit que la vision du futur change en fonction des époques. Et oui, le futur peut des fois être dépassé. Dans la science-fiction contemporaine, les voitures volantes des années 80 ont été remplacées par la végétation qui recouvre les grands immeubles désertés de nos mégapoles sans âme. Les extraterrestres sont rarement montrés comme des envahisseurs, mais plutôt désormais comme des migrants que l'on ne traiterait pas beaucoup mieux que les nôtres. Immigration, réchauffement climatique ou même transidentité, le futur de nos bandes dessinées n'est finalement rien d'autre que notre présent qui continue à se poser des questions.
France Inter, Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
D'être une vedette dans sa classe, autour du dessin, peut donner l'impression qu'on est quelqu'un d'important. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai très vite créé un personnage qui était moi, mais qui était en fait une création. Alors évidemment, c'est une création qui finit par être réelle, puisque ce qu'on est, c'est beaucoup ce qu'on croit être. Et c'est sûr que j'ai eu l'impression, enfin en tout cas, je ne sais pas quelle est la partie consciente ou la partie inconsciente, mais j'ai eu l'impression qu'il fallait absolument que j'accepte humblement de me considérer comme génial. Et, enfin, génial, c'est-à-dire comme quelqu'un ou quelque chose d'important, dont le point de vue sur le monde compte. Et avec le temps, je me suis aperçu que c'est presque une nécessité pour un artiste.
Moebius, alias Jean Giraud, a fait plus que révolutionner la BD française. Il a révolutionné l'image que l'on se faisait de la science-fiction, du fantastique ou du western en BD. Fer de lance du magazine culte Métal Hurlant, Moebius a, à travers ses œuvres telles que Lincal, Arzac ou Blueberry, influencé des tonnes d'artistes bien au-delà de la bande dessinée. L'Alien de Ridley Scott, Tron, Le Cinquième Élément ou encore Miyazaki lui-même doivent quelque chose à ce génie français du dessin. Et pour revenir sur cette illustre figure de la bande dessinée, je suis avec Isabelle Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Moebius Productions et vous avez partagé la vie de Moebius.
Voilà, c'est ça, tout à fait. De 1983 à 2012. Voilà, pas complètement toujours, mais pas mal d'années finalement. Mais c'est passé très vite.
Oui, j'imagine.
Je veux dire.
Avec nous également, Lloyd Chéry, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste pop culture, rédacteur en chef adjoint du magazine Metal Hurlant, et vous avez vos chroniques ici même, Metal Hurlant, cet été, le dimanche à 7h20 sur France Inter.
Tout à fait.
Avec nous, Christophe Killien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, passionné de bande dessinée et auteur de la biographie Jean Giraud, alias Moebius, aux éditions du Seuil.
Exactement.
J'ai trouvé le nom, Blueberry. J'ai eu vraiment, on peut dire, un coup de génie. C'était de prendre Belmondo comme modèle un peu pour faire Blueberry. J'ai eu le pressentiment de faire d'un seul coup un personnage qui n'existait pas en bande dessinée, c'est-à-dire un personnage avec une charge d'animalité et de sexualité que les autres n'avaient pas. Hein, quand on regarde Tintin, c'est vrai qu'il n'est pas très sexué. Ça a eu tellement de succès immédiatement que le personnage est resté et il existe. Blueberry est toujours là, quoi.
Vous venez d'entendre Jean Giraud parler du personnage de Blueberry dans un entretien sur la BBC 4 le 23 septembre 2007. Lloyd Chéry, première question d'ouverture. Que représente Jean Giraud dans le paysage de la BD française aujourd'hui ?
Oh bah c'est Jean Giraud, c'est comme Mohamed Ali en boxe, comme Maradona en foot, c'est le plus grand, je pense, le plus grand dessinateur de BD français. J'aurais tendance à dire voire international, en tout cas je le mettrais au même niveau qu'un certain Hayao Miyazaki, ça tombe bien, ils ont fait une exposition ensemble. C'est un génie du dessin, c'est un génie de la narration, c'est quelqu'un qui a révolutionné la science-fiction, que ce soit avec Metal Hurlant ou avec L'Incal, c'est un grand créatif. Et ce qui est intéressant avec Moebius, c'est que les gens n'ont pas, la nouvelle génération n'a pas forcément lu Moebius, mais en tout cas tout le monde connaît ses dessins. Il est incontournable, et dans ses dessins il y a une dimension... spirituel, une immense créativité. En tout cas, c'est assez dingue de lire Moebius, et ça fait toujours du bien. Et même de l'écouter, c'est toujours touchant de l'entendre. C'était quelqu'un qui avait, je pense, qui était très, très, très pertinent.
Isabelle Giraud, on l'a entendu s'exprimer sur la bande dessinée. Comment Jean Giraud concevait le dessin ? Est-ce que c'était un état permanent de créativité ? Est-ce qu'il était toujours en train de faire un croquis quelque part ? Ou est-ce que, comme d'autres dessinateurs, ça pouvait être un moment à part ? On dit, voilà, maintenant, il faut que je me mette à travailler et je m'isole pour le faire.
Alors non, c'était vraiment tout le temps, je dirais, comme un chef cuisinier qui a plusieurs plats sur le feu et tout le monde dans la tête, ce qui fait que... Il donnait l'impression d'être là sans être là, mais en fait non, il était vraiment hyper conscient de toutes les histoires qu'il avait en cours. Il les conservait sur plusieurs années, et puis il dessinait tout le temps. Donc, et en fait, il regardait la réalité d'une façon particulière, qui fait que vous, par exemple, vous aurez tout de suite croqué avec une autre dimension de vous-même.
Il aurait rajouté des cheveux.
Sans forcément caricaturer. Mais et souvent, ça matchait, il touchait juste et il percevait quelque chose chez une personne, surtout dans les dédicaces, par exemple, qui avait rapport avec l'histoire de cette personne. Et franchement, c'était...
Donc il y avait sa vision
toujours sur le feu.
D'accord. Donc il y avait sa vision du monde et en fait tout était réinterprété dans ses dessins.
Voilà. Et puis non, il avait une grande mémoire aussi de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il avait prévu. Enfin, comme il avait plusieurs domaines en permanence, parce que finalement la bande dessinée c'est un art qui se pratique sur le long cours. En fait, c'est pas comme écrire un scénario tout à fait. Blueberry, c'était un an de travail, donc il continuait le soir tout son petit travail sur ses histoires personnelles. Donc voilà, comme un artisan, en fait, un artisan d'art.
Christophe Killien, quel type d'enfance a eu Jean Giraud et comment il est amené à devenir dessinateur ?
Mais il dessine quand même très très jeune. Il est encouragé par sa grand-mère qui avait une véritable admiration pour lui. Et puis il y a aussi ensuite l'influence qui a été évoquée tout à l'heure qu'ont pu avoir ses copains d'école quand il disait que très vite je considérais que j'étais un génie. Je pense que le regard de ses copains, qui est très admiratif de ce que faisait le jeune Jean Giraud, qui avait vraiment une qualité de dessin, d'observation que les autres n'avaient pas, a beaucoup contribué à ce qu'il s'assume dans ce rôle du dessinateur d'exception qu'il est devenu, finalement. Donc il a vraiment baigné dans un environnement à la fois familial et d'amitié qui l'a incité à dessiner tout le temps et à consacrer sa vie au dessin. Et il s'est rendu compte aussi que le dessin lui donnait une sorte de statut vis-à-vis de... une sorte de privilège et de passe-droit. Il l'explique très bien dans son autobiographie. Il dit, en fait... En contrepartie, il faut que l'artiste apporte une vision du monde. Il faut qu'il apporte de la beauté et ça lui donne un statut privilégié vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la société. Ça, il en était conscient et je pense qu'il l'assumait parfaitement.
Isabelle, c'est vrai que j'ai interviewé pas mal de dessinateurs et souvent, il y a toujours ce schéma de l'élève un peu cancre au fond de la classe qui, pendant les cours, préfère dessiner. Lui, est-ce qu'il a toujours été dessinateur à 100% ou est-ce qu'à un moment donné, il a fallu peut-être qu'il compose avec d'autres professions qu'on lui proposait.
Alors, il n'était pas cancre, il était provocateur. Donc souvent... comme tous les gens provocateurs, ils s'expriment et puis paf, on les remet au fond de la classe. Mais je pense qu'il a appris à dessiner, il le dit souvent dans ses interviews, en recopiant les livres qui étaient chez sa grand-mère, dans une toute petite chambre. C'était Gustave Doré, en fait, son maître. Et il recopiait Gustave Doré, les gravures, et son trait vient de cet effort, en fait, pour reconstituer ce qu'il avait sous les yeux. Et c'est pour ça qu'il a fait une œuvre... il a illustré Dante pour une galériste italienne. Donc, il a illustré le paradis, et au lieu de faire sa propre version de Dante, il a fait une version des illustrations de Gustave Doré, avec une mise en couleur, une simplification, et c'est très beau, parce qu'il avait une grande admiration pour Gustave Doré. Comme Druyer, d'ailleurs, aussi, qui nous dit, en fait. Et puis, Jean, c'est quelqu'un d'assez solitaire, et qui s'amuse lui-même, en fait, de ce qu'il fait, en fait. C'est une façon de se raconter des histoires, de se surprendre lui-même. Et puis, un perfectionniste, en fait, aussi. Mm-hmm. Ouais.
Lloyd Cherry, la première œuvre de Moebius que vous avez découvert et ensuite celle qui vous a le plus marqué, c'est peut-être les deux, la même.
La première œuvre, c'était Le Monde d'Edenna, il y avait le volume 3 qui était à la maison. Mon papa avait des bandes dessinées, des humanoïdes associés, entre autres. Et assez rapidement, j'ai découvert L'Incal, que je considère comme la plus grande BD, saga de science-fiction en bande dessinée francophone, franco-belge. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. C'était aussi une bande dessinée où il y avait beaucoup d'action. Le découpage est assez génial. Il y avait aussi un peu de sexe. Donc, quand on était un petit garçon, c'est vrai que tout de suite, on voyait des choses qu'on n'avait pas forcément le droit de voir. Donc, il y avait quelque chose en lien avec l'interdit. Mais du coup, c'est comme ça, moi, que j'ai découvert. Et puis, plus tard, je me suis mis à Blueberry. Blueberry, c'était plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de textes. Il y avait beaucoup de textes, beaucoup de dessins, plus un peu semi-réaliste. Donc, beaucoup moins, pour moi, enfant, moins accessible d'accès que L'Incal. Mais j'y suis allé plutôt ado et j'ai trouvé ça tout aussi génial. Et je ferai une comparaison entre le Blueberry et les films de Sergio Leone. Mm-hmm. Pour moi, il y a la même un peu dimension, un peu waouh, exceptionnelle entre le western italien et Blueberry en BD.
Alors vous savez, j'en ai trouvé des raisons tirées par les cheveux pour mettre telle ou telle chanson dans mon émission, mais là je crois que pour cette émission je me suis surpassé, parce qu'on va écouter Moebius, qui est tiré de la bande originale de Final Fantasy XIV, un jeu vidéo, un combat contre Perfect Alexander. Vous voyez, pourquoi j'ai fait ça? Ben parce que j'aime bien le jeu, puis j'aime bien Moebius, et voilà, c'est tout, faut pas demander.
Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster sur France Inter.
Mebius no Hazak na.
Arzak de Monsieur Moebius, vous voyez ? Oui, Arzak. Je crois qu'il a créé ça en 1975. Moi, je l'ai découvert en 1980. Ça a eu un grand impact sur moi. Mais malheureusement, mon style était déjà assez établi à l'époque. Donc je n'ai pas pu m'en servir aussi efficacement que je l'aurais fait si j'avais commencé mon développement créatif à ce moment-là. Mais c'est définitivement vrai que j'ai créé Nausicaa avec en tête l'influence de Moebius.
Sur quelque chose qui m'a frappé dès le début, c'est le fait que M. Miyazaki se soit inspiré dans pratiquement tous ses films de fantastique de l'Europe. Et c'est une perception de l'Europe qu'on sent très lointaine, idéalisée et amoureuse. Par contre, j'ai trouvé que des films comme Totoro, Mononoke et Kiro, d'un seul coup représentent une rentrée chez soi, qui est très émouvante aussi.
C'était un échange entre Hayao Miyazaki et Jean Giraud en décembre 2004, une exposition de leur œuvre à tous les deux avait été organisée au Musée de la Monnaie de Paris pour la sortie du film Le Château ambulant. Alors c'est touchant de les entendre parler tous les deux parce que ça me fait penser presque au duo de David Bowie et Freddie Mercury, Under Pressure, où là tu te dis, voilà, c'est les génies qui se rencontrent et qui parlent comme ça tranquillement. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Et Christophe Killien, le premier genre qui a séduit Jean Giraud, c'est le western. Est-ce qu'on sait pourquoi cette appétence particulière pour le western ?
Mais je crois que c'est une question de génération, c'est-à-dire que tous les gamins qui sont nés à la fin des années 30, dans les années 40, étaient très influencés par le western, et en particulier par le cinéma américain et par les BD de western. La science-fiction n'est venue qu'après. Mm-hmm. Pour ce qui concerne Jean, c'est au moment où son père lui offre un exemplaire de la revue Fiction, quand il a 13 ou 14 ans. Mais de même que Jean-Claude Mézières, son copain d'enfance, d'adolescence, qui dessinait Valérian, c'est vraiment une génération qui était très accrochée par le western. Donc c'est un effet de... Le western n'a plus la même importance aujourd'hui, il y a un moment où la SF a pris le dessus, mais à cette époque-là, c'était vraiment la grande référence. Mézières rêvait d'être cow-boy et d'aller aux États-Unis, ce qu'il a fini par faire. Jean Giraud a vécu aux États-Unis, et voilà, je crois que ça correspond tout simplement à une génération.
Et c'est une époque où il a été l'apprenti du dessinateur Gier. Et c'est vrai que quand on pense à Jean Giraud et à l'œuvre incroyable qu'il a laissée derrière lui, on a du mal à l'imaginer un jour apprenti, élève de quelqu'un. Isabelle Giraud, est-ce qu'il vous a parlé un petit peu de cette époque aux côtés de Gilles ?
Bien sûr. C'est-à-dire que il a fait les arts appliqués et ensuite il est parti rejoindre sa maman qui s'était mariée avec un boxeur mexicain, enfin légèrement marié. Mais donc, il n'a pas fini les arts appliqués. Il est parti là-bas. Et quand il est revenu, il avait totalement changé. Et là, il a une opportunité. Et d'un seul coup, il est passé dans la vie professionnelle tout de suite, en fait. Parce que les arts appliqués, avant, ce n'était pas après le bac, c'était assez tôt. Mm-hmm. Donc, il a eu cette proposition. Et Gigé, pour lui, c'était comme une famille, en fait. C'était... Il y avait une petite maison atelier au bord de la forêt. Enfin, pour lui, c'était magique. Et voilà, je pense que... Et bon, le western, certes, vous savez, ses parents étaient divorcés. Donc, en fait, c'est son père qui lui offrait des petits fascicules. Et c'est pour ça qu'il y a une relation particulière avec le western. Mais c'est aussi que Jean, il ne faut pas oublier qu'il est né en 38, c'est vraiment un enfant de la guerre. Et à la sortie, enfin, dès l'enfance, il a eu envie de tourner la page et de ne pas rentrer dans la littérature française. Et pour lui, les États-Unis, ça représentait de tourner dans son petit cerveau d'enfant et d'adolescent. Au milieu de la noirceur, en fait, de la guerre.
Oui, c'était
un ailleurs féerique et idéalisé, bien sûr, mais... Donc il est rentré comme ça.
Et puis il y a un autre élément dans le western qui a fasciné et Jean Giraud et qu'on a toujours trouvé dans son œuvre, c'est le désert.
Alors, le désert, oui. Le désert, ça, je pense que c'est vraiment son expérience aux États-Unis. D'un seul coup, de sortir de la banlieue de Vincennes, et puis se retrouver à 16 ans dans un ailleurs. Ça, c'est sûr, le désert, c'est capital. C'est la page blanche, puis c'est vraiment un désert habité. D'ailleurs, il a fait une œuvre qui est très belle, qui s'appelle « 40 jours dans le désert B ». Et c'est l'histoire d'une méditation, d'une transformation, où chaque jour, chaque jour, il y a des visions, il y a toute une histoire. C'est vraiment l'aboutissement du personnage d'Arzak, en fait, qui évolue toute sa vie. Et à la fin, c'est la méditation transcendantale dans le désert. C'est vrai que le désert, c'est important. Mais il a projeté dans le désert ce qu'il a vécu petit, simplement, autour de lui, parce que comme il était assez solitaire, vu qu'il vivait pas tout à fait dans une famille avec un papa et une maman, etc., il avait une grande liberté. Il allait dans le bois de Vincennes, mmh. et il restait des heures à regarder les petites bêtes qui bougent, les têtards, etc. Et dans le désert, il y a ça aussi. Chaque petite pierre a un sens, chaque petit animal aussi. Voilà.
Et L'œil de Chéri, on voit que dans l'œuvre de Jean Giraud, les mots ont une importance, mais sont quand même secondaires. On a parlé d'Arzak, où vraiment, il n'y a aucun mot, c'est des planches absolument magnifiques, où tout passe par le dessin. C'était aussi une revendication quasiment graphique de dire la bande dessinée se suffit à elle-même, sans dialogue, sans bulles. On doit pouvoir comprendre une histoire sans même qu'il y ait des bulles, des phylactères.
Ouais, ce qui s'est passé, c'est que donc Arzak a été publié dans Métal Hurlant, et quand Moebius, avec Jean-Pierre Dionnet et puis notamment Philippe Druyet, lance Métal Hurlant, c'est pour avoir un terrain d'expression, d'expérimentation qui n'était pas possible dans le magazine Pilote.
Oui.
En fait, Moebius travaillait à Pilote, et donc Métal Hurlant était une source, je pense, d'air frais pour expérimenter, pour tenter des choses. Et Arzak, je crois, est le premier grand récit muet en bande dessinée, qui est un récit en termes de découpage totalement fou, avec vraiment une grande source. C'est un récit très profond, malgré qu'il n'y ait pas de parole. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Métal Hurlant a vraiment servi de moyen d'expérimentation pour toute une génération d'artistes qui voulaient un peu sortir du carcan de Pilote, qui était super, hein, mais qui ne permettait pas forcément de pouvoir s'exprimer, de faire des récits pour adultes ou des récits peut-être un peu plus voilà, pour grands, quoi.
Christophe Killien, justement, ce passage entre Pilote et Métal Hurlant, j'ai un oncle qui m'a initié à la bande dessinée, et c'est vrai que quand il parlait de Pilote, c'était genre le totem sacré. Si tu savais, ta grand-mère, elle achetait tous mes Pilotes quand j'étais gamin, c'était terrible. Et en fait, on a vraiment l'impression que la bande dessinée est devenue adulte dans la transition qui s'est passée entre Pilote, le flux glacial, Métal Hurlant, L'écho des savanes. On a l'impression que c'est là que tout d'un coup ça a été l'adolescence de la bande dessinée.
Oui, parce que René Goscinny, qui était rédacteur en chef de Pilote avec Jean-Michel Charlier, mais c'est quand même Goscinny qui insufflait beaucoup d'innovation, a fait entrer et travailler des gens comme Gottlieb, Bretéché, Bilal, Jean Giraud, Druyet, enfin, qui sont devenus après les ténors de la bande dessinée française. Et ça correspond aussi à l'époque où la bande dessinée belge, qui était plutôt la plus créative et la plus productive, cède le pas devant la bande dessinée française, qui s'affirme de plus en plus. Et il y a Métal qui est créé en 75, mais la même année, il y a la création de Tous Bourrin, de Circus, il y a eu L'écho des savanes en 72. C'est vraiment une grande période de créativité, et beaucoup des auteurs novateurs sont passés par Pilote, justement. Mais Pilote restait malgré tout un hebdomadaire pour les adolescents. Au début, c'était très tourné vers l'enfance, ça a un peu évolué, mais il y avait un certain nombre de sujets ou de manières d'aborder les thèmes de société qu'on ne pouvait pas produire dans Pilote. Donc c'est pour ça que Mandrika est parti créer L'écho des savanes, que Gottlieb a créé Flic Glacial en 75, la même année que Métal, et que Moebius, Druyet et Dionnet, qui étaient donc deux dessinateurs et un scénariste de Pilote, qui avaient envie de faire de la science-fiction, ont créé Métal Hurlant, finalement, parce que le terrain d'expression qui était Pilote ne leur permettait pas d'aller très loin dans leur délire et dans leur fantasme. Mais je voudrais juste revenir sur un aspect, vous parliez des mots. Alors c'est vrai qu'on a en tête le Giraud, très grand dessinateur, mais c'est aussi quelqu'un qui savait manier les mots. Quand on lit certaines de ses lettres, quand on lit tous les poèmes qu'il a écrits dans les recueils d'illustrations qui sont sortis notamment chez Casterman, c'est quelqu'un qui savait jouer avec les mots et qui était très agréable à lire. Isabelle, je pense que vous ne me démentirez pas.
C'est vrai.
Il avait un vrai talent d'écriture.
Le talent, en fait, de dessinateur et de peintre, même, masque autre chose qui est un vrai savoir jouer avec les mots, en faire même une seconde narration, en fait, quand même moi, je redécouvre dans un coin de la page un mot, un verset qui veut dire autre chose. On n'arrête pas de se poser des questions. Il y a un lexique moebiusien à faire, en fait, parce qu'il y a plein de mots inventés qui ont presque un sens, d'ailleurs, aujourd'hui, en fait.
Oui, puis il y a un aspect de Giraud, en fait. Exactement. Puis il y a un aspect de Giraud qui n'est pas toujours mis en avant, mais c'est vrai que littéraire. La SF n'est pas toujours drôle, mais Giraud était quelqu'un de très, très drôle. Enfin, l'humour était très important.
Oui,
ça se voit dans ses bandes dessinées.
Et puis, en fait, l'humour était drôle, mais il s'en fichait qu'on le comprenne ou non, en fait. Parce que presque, il regardait si ça avait vraiment matché, si les gens avaient compris la blague ou pas. Et c'était...
Ouais, mais ces bandes sont drôles, très souvent.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
On va continuer de parler d'un des plus grands dessinateurs de bandes dessinées, le célèbre Moebius, mais pour le moment, on marque une courte pause musicale avec Château Fort, interprété par Éloi.
C'est vite que je m'élance, je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je dois laisser toi fuir. Elles ont quoi de mérite, tout est riche. Je reste assis sur le port si je mérite pas de guérir. Je crie tous les feux devant, je connais que l'errance. Le temps file, c'est vite que je m'élance, je prends pas le temps de vérifier. Tu m'expliques, je dois laisser toi fuir. Elles ont quoi de mérite, tout est riche. Je reste assis sur le port si je mérite pas de guérir.
Frédéric Sigrist sur France Inter.
Quand je vois l'album de Lieutenant Blueberry, Le bout de la piste, j'ai hâte de l'avoir, l'album, pour pouvoir le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Alors je vais, quand l'interview sera terminée, je vais le prendre. C'est bien, je ne vais pas l'acheter. Génial. Je l'ai gratuitement. Et je vais le lire, avec, d'abord avec le regard candide du lecteur, puis ensuite je vais revenir avec le regard critique de l'amateur de BD qui dit « gna gna gna, là ça va pas ». Puis après je vais faire mon autocritique, et puis je vais finir par mon autosatisfaction. Je fais mon autocritique en regardant tous les trucs qui vont pas, puis mon autosatisfaction en regardant tous les trucs qui sont beaux. Et puis je vais voir s'il y a des erreurs, on m'en a déjà signalé une. Je suis spécialiste des bourdes monumentales.
C'était Jean Giraud dans l'émission de BD d'Éric Verroust sur la RTBF et ça date du 15 octobre 1986. Isabelle Giraud, vous êtes venue les mains pleines de cadeaux, notamment la nouvelle édition d'Arzac Destination Tassili, Corpus Final.
Oui, ça c'est celui d'avant, je suis désolée, je vais venir, je vais vous en envoyer. Alors, Arzac Corpus Final, parce que Jean a été en train de refaire une série sur Arzac, mais hélas, il a dessiné 32 pages, mais scénarisé plusieurs versions de cet album. Donc la question c'était comment on le... C'est une vraie question ça, quand un auteur décède, qu'est-ce qu'on fait une œuvre interrompue? Et on a tourné, est-ce qu'on le donne à faire à quelqu'un? Est-ce que... En fait, on s'est dit que c'était plus pur en fait, d'aller jusqu'au bout, et puis de donner les versions de plusieurs histoires, hein, parce que donc, c'est un mélange... Hein, parce que l'historique de cette histoire, c'est un peu des projets ratés avec Ridley Scott, avec machin, avec la succession de Kurosawa. Enfin, donc, et finalement, Jean, il a pris son crayon et il l'a dessiné. Il l'a ensuite envoyé à Ridley Scott en disant, tu vois, c'était ça, en fait.
Oui.
Ça, c'était pour la première partie, mais il avait trois parties en tête. Et c'est presque au lecteur, en fait, d'imaginer quelque chose. Et puis peut-être que des dessinateurs ont des choses à dire. Parce qu'il y avait toujours cette distance. Ah non, j'ose pas dessiner derrière Jean. Même des dessinateurs qui aiment, ils veulent peut-être interpréter. Mais faire la suite et la fin... C'est quelque chose de difficile. C'est
Y a un manga notamment qui s'appelle Berserk qui a été repris par l'ami de Kentaro Miura et c'est extrêmement difficile, à la fois je pense humainement, mais même aussi pour les lecteurs de se confronter à une grande légende comme ça ensuite, c'est toujours très compliqué. Ouais. Moi j'avoue que donner à voir un travail qui ne s'est pas fini parce que la vie s'est arrêtée,
ouais.
Je trouve que c'est magnifique aussi. C'est-à-dire que y a la possibilité de quelque chose qui reste dans l'imaginaire. Et
Oui, et ça marche bien dans ce livre parce que c'est épais. Le problème, c'est que c'est un gros paquet, effectivement. Il y a aussi un appel à mettre en couleur une certaine partie, peut-être à faire l'histoire au cinéma, je sais pas, parce que...
L'appel est lancé.
Voilà.
Oh, on a une petite... On a une belle audience, donc... justement, Arzac, c'est l'histoire qui a attiré l'attention sur Jean Giraud, et notamment ce projet dont l'œil nous avait déjà parlé avec Jodorowsky, de Dune, qui ne s'est jamais fait.
Oui, alors c'est vrai que là, au plein milieu des années 70, Alejandro Jodorowsky décide d'adapter Dune de Frank Herbert, et donc il va réunir des guerriers spirituels, donc des très grands créatifs, dont Moebius, qui va travailler pendant à peu près 2 ans et qui va faire qui va dessiner tous les personnages, qui va dessiner les costumes et qui va aussi faire le fameux storyboard qui va être compilé et qui va tourner dans tout Hollywood. Et le film ne se fera malheureusement pas, mais de ce qu'on peut voir, moi-même je n'ai pas vu en entier le storyboard, évidemment. J'ai même jamais vu le storyboard. J'ai vu des images, des dessins. Ça avait l'air d'être extrêmement intéressant, très très beau visuellement. Et il y avait déjà une petite révolution. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si ce projet est inachevé, ça a permis ensuite à Moebius d'aller travailler dans le cinéma. Et il a travaillé, quand on regarde la filmographie sur les films auxquels il a été, il y a beaucoup de films légendaires, notamment Alien, notamment Tron.
Oui, enfin, oui.
C'est assez dingue.
Justement, Isabelle, quel était son rapport à cette industrie d'Hollywood qui fonctionne quand même très différemment de celui de la bande dessinée où on est chez soi devant sa planche
alors,
à dessin
C'est vrai que Hergé, c'était par exemple presque un capitaine d'industrie dans son genre. Enfin, et puis, il avait un background industriel, alors que Jean, tout seul dans sa petite maison, il rêvait, en fait, c'est sûr, d'aller aux États-Unis, de s'intégrer, Et il avait été repéré par ses pairs, mais pas par des gens suffisamment puissants pour lui. Moi, si j'avais été un producteur américain, une productrice américaine, eh ben, je ne sais pas, avec tout ce que je sais de Jean, mais j'aurais donné, je ne sais pas, j'aurais fait un pont d'or pour faire un film. À la place, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont fait travailler sur des petits projets, mais qui n'ont pas abouti, alors qu'en fait, il avait vraiment une intention d'inonder le monde avec ses visions du monde, quoi.
Et donc, Christophe Killien, il y a aussi, moi je me souviens, je suis lecteur de comics, aussi les auditeurs de France Inter le savent bien, mais je me souviens du Surfeur d'Argent.
Oui.
De Moebius,
oui.
Scénarisé par Stan Lee.
Exactement.
C'est-à-dire que on a quand même un carrefour d'un homme, un talent qui parle avec Ridley Scott, qui parle avec Hayao Miyazaki, qui parle avec Stan Lee et qui crée une vision qui est même encore citée par de nombreux dessinateurs américains comme une des versions les plus abouties du Surfeur d'Argent.
Moi j'aime beaucoup le Surfeur d'Argent de Stan Lee et Moebius. Alors il racontait souvent qu'il avait eu beaucoup de mal à s'y mettre parce qu'il avait craignait de ne pas être à la hauteur, peut-être qu'il exagérait un petit peu.
Oui, toujours.
C'était pas facile en même temps, parce qu'il reconnaissait que lui, il arrivait avec un style très européen, et il devait se couler dans le moule du comics américain, ce qui n'est pas forcément évident.
Transformer un petit peu à chaque fois.
Oui, bien sûr.
Les plans, c'est pas la même chose.
C'est vrai. Mais alors, il disait, je pense que pour les Américains, ce Surfeur d'Argent est très européen, et que pour les lecteurs européens, ça doit être très, très américain. Mais je trouve que c'est un très bel album qui a été critiqué par certains, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un côté un peu prêchi-prêcha du Surfeur, mais ça, c'était le scénario de Stan Lee.
Oui,
bon, voilà. Mais le résultat et ce qu'en a fait Giro, enfin moi j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé ce Surfeur et je trouve que c'est une vraie réussite. Voilà. Et il aurait pu. Alors il y avait d'autres projets, je crois. Marvel avait envie de faire d'autres choses, ça n'a pas abouti pour des raisons que j'ignore, mais non, c'est une expérience réussie. Et je pense que c'est aussi la réalisation d'un rêve d'enfance, finalement, travailler pour la bande dessinée américaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il a dessiné un album de 13, donc de la pure BD franco-belge, avec Jean Van Damme au scénario. Mais finalement, il y a une certaine logique, c'est-à-dire qu'avec Blueberry, c'était la vision de l'Amérique du 19e siècle par des Européens, et ce 13, c'était la vision de l'Amérique du 20e siècle, encore par des Européens. Et je ne sais pas comment il a vécu cette expérience, mais là encore, je trouve que c'est un album très réussi, de la part de Jean.
13, oui.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Après, ça reste une bande dessinée hyper balisée, classique,
etc. Moi, c'est difficile pour moi de dire qu'il n'y a pas
évidemment
un dessin.
Ben oui, évidemment, évidemment. Mais on le voit aujourd'hui, quand un pays a un dessinateur, un chanteur, un réalisateur qui a le vent en poupe au niveau international, on le met en avant, on parle de French Touch. Moebius fait partie des premières figures de proue d'un soft power français. C'est-à-dire que...
C'est vrai, tout à fait.
Qu'il en avait conscience.
Mais complètement. Et c'est les auteurs qui se reconnaissent entre eux d'une façon horizontale et vraiment internationale, interplanète, etc. Et par exemple, il est dans un très bel album de photos sur les dessinateurs de comics. Et il est photographié sur la plage à Los Angeles. Il y a deux Français, c'est tout. Et il est dedans. En fait, il fait partie de la famille. La famille des dessinateurs de bande dessinée. Ils se reconnaissent, en fait, c'est sûr.
Oui, donc en fait, il avait la reconnaissance de ses pairs.
Tout à fait, ouais.
Parce que je pense qu'aujourd'hui, il se passerait exactement la même chose. Il aurait sa photo directement avec Emmanuel Macron. C'est sûr, en train de tenir une planche.
Il serait dans l'avion.
Ouais. Oui, c'est sûr, c'est certain. Comme quoi, il y a le statut des dessinateurs a évolué avec
bien
le temps.
C'est bien.
Ouais. Le statut de la bande dessinée a évolué, de toute façon. Donc,
Plus facilement que les peintres, parce que c'est difficile de trimballer un peintre.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va attaquer la quatrième partie de notre blockbuster consacré à Jean Giraud, juste après avoir écouté Last Maria on Earth avec Amor. Mais
Blockbuster sur France Inter.
Lloyd Cherry, comment vous définiriez le style de Moebius ?
C'est compliqué, c'est une bonne question, parce qu'il n'y a pas qu'un style de Moebius, il y a des styles de Moebius. Il y a la partie un peu semi-réaliste, on va dire, avec Blueberry. Enfin, c'est quasiment tout que du semi-réaliste, on pourrait définir comme ça, mais je dirais qu'il y a une partie plutôt, ouais, réaliste à la Blueberry, qui a beaucoup évolué, qui s'est fluidifié avec les années. Quand on prend les premiers albums, il y a beaucoup de petits traits partout. Après, ça évolue avec la partie science-fiction. Pour moi, il y a des grands espaces. Quand on revoit les premières planches de Lancal, il y a quand même des planches où il y a des dizaines de personnages. Enfin, c'était quelqu'un qui pouvait, d'un point de vue technique, aller très très loin. Et moi, ce que je vois avec au fur et à mesure des années et des décennies, c'est une forme d'épure. C'est qu'à la fin, on voit d'ailleurs dans le dernier Arzak, là, qui a été fait par Moebius Productions, qui est très beau, on voit qu'il y a une épure du dessin, ça va d'un coup, c'est fluide, c'est puissant.
C'est une ligne claire, mais qui est extrêmement précise, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a même pas eu de crayonné hésitant. On a l'impression que c'est presque un univers qui existait déjà et qui est passé par le doigt comme ça, juste pour se superposer sur une planche.
Alors, c'est un truc qui va faire plaisir à tous les myopes, c'est-à-dire les gens, ils disaient parfois, ce que les gens ignorent, c'est que moi, je suis très très myope. Et quand j'enlève mes lunettes, c'est comme si j'avais une loupe à la place d'une loupe, un œil, et ce qui fait que la précision vient de sa très très grande myopie. D'ailleurs, quand il s'est fait opérer de la cataracte, c'est un problème, parce qu'en fait, on ne fait pas des lentilles pour les cataractes myopes. Il ne faut pas que les gens soient myopes. Donc, on les remet à niveau. Et donc, il n'avait plus le même... Donc
il a fait de sa myopie une force pour dessiner.
Ah, tout à fait, oui. Donc, tous les myopes... les myopes le savent.
Parce que... Oui, les myopes qui savent dessiner.
Oui.
Parce que là, j'entends plein de myopes qui sont partis dire « Ouais, je vais être le prochain Moebius !» Non, d'abord, il faut savoir dessiner.
Comme oui, dans un timbre.
Il était à 10 cm au-dessus de la feuille quand il dessinait.
Ah oui, comme ça, vraiment.
Quand il enlevait ses lunettes. Il les remettait, il avait une vision plus générale et plus globale, c'est ce qu'il explique. Donc.
Christophe Killien, comment vous aussi, lourde tâche de définir le style Moebius ?
Mais je crois qu'il n'y a pas de style Moebius. Il y a tellement de différences entre Blueberry, qui est vraiment, moi je dirais que c'est vraiment du réalisme Blueberry. Puis à un moment, il a commencé à mettre du Moebius dans tout ça, c'est un peu entremêlé. Mais entre la déviation Arzak, le garage hermétique, ou alors ce qu'il faisait dans Harakiri, qui était très influencé par les dessinateurs du magazine américain Mad, au tout début des années 60, ce qu'il a fait à la fin de sa carrière, enfin, il n'y a pas un style, et c'était ça la force et la grandeur de Giraud et de Moebius, c'était de pouvoir aborder des styles graphiques très très différents. Et il y a une œuvre qui est peut-être moins connue, mais moi que je trouve, qui est sa dernière grande œuvre, qui est Inside Moebius, qui est quelque chose de... c'est une sorte d'introspection amusante. En fait, il règle ses comptes avec ses personnages, puis il se pose aussi les personnages râles. Blueberry dit « Oui, c'est scandaleux, quand il y avait Charlier, j'avais des vrais scénarios, maintenant c'est Giraud, c'est n'importe quoi, c'est assez drôle. » Et son dessin est très jeté, très libre, c'est passionnant.
Le garage hermétique est souvent cité comme étant, d'un point de vue expérimental, comme étant le summum du travail graphique de Blueberry. C'est une révolution, c'est considéré comme peut-être une des plus grandes BD de tous les temps aussi. De Moebius, oui. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Ouais.
Ah, y a une beauté dans le garage. Et puis il y a encore dans le garage hermétique, ou Major Fatal, on l'appelle comme on veut, il y a des grandes variétés de styles. Il y a des pages beaucoup plus jetées, beaucoup plus crobards. Et puis il y a des pages d'une beauté avec une finesse de trait qui est absolument incroyable.
C'est-à-dire que, en fait, genre, c'est un peu comme s'il avait séparé sa vie, sa chronologie, parce que on a Arzak qui est un personnage extrêmement mystique, philosophique. Ça, c'est vraiment notre partie reliée à l'univers. Après, il y a Blueberry, c'est la partie humaine, c'est le héros qu'il aurait aimé être, le garçon qu'il aurait aimé être. Le monde d'Edena, c'est l'adolescence, en fait. C'est l'histoire de deux adolescents et c'est des sujets qui nous touchent aujourd'hui, la préservation de la planète. enfin, regoûter aux choses d'une façon naturelle, etc. Et puis, il y a le monde du garage hermétique, effectivement, où il se représente un peu sous la forme du major Gruber, qui est le créateur absolu, qui fait des mondes à plusieurs niveaux et qui crée des univers dans lesquels il se perd aussi. Donc c'est vraiment comme des étapes dans la vie, en fait.
Oui, oui. Et d'ailleurs, vous me disiez hors antenne que même dans l'Incal, le métabaron, le fameux métabaron, oui, était une représentation de son grand-père.
Oui, son grand-père, enfin adoptif d'une certaine façon, oui. Parce que son vrai grand-père, il ne l'a pas connu. Ouais.
Et donc, en fait, c'était ça. Dans ces personnages, il y avait des morceaux de lui
partout.
Ouais.
Bah, je pense que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire un sens de l'observation. Observer les autres sans se faire trop voir, mais toujours avec un œil de batracien un peu ouvert. Et puis tout de suite le transformer, quoi.
Et pour cette émission, j'avais aussi, on a voulu inviter un grand, grand dessinateur qui, pour moi, est une filiation évidente avec Moebius, qui s'appelle Jeff Darrow.
Ah oui.
Et qui vit désormais en France. Et notamment, il travaille sur une bande dessinée que je ne saurais que trop vous conseiller de découvrir, qui s'appelle Shaolin Cowboy, aux éditions Futuropolis. Et je pense qu'il était trop, trop timide de se dire « Non, je ne pourrais pas parler de... »
Jeff, il faut absolument le faire venir, parce que s'il est difficile à décider, il est sensible à la moindre petite chose. Mais c'est quand même le dessinateur de Matrix, c'est un grand gaillard qui est...
Qui est aussi à l'origine de Hardboiled,
voilà, et Big en fait, Guy, ça a tout de suite bien été entre eux. Il y a eu La Cité Feu, qui est... un portfolio avec des grands dessins que d'ailleurs on va peut-être rééditer avec les Américains, puisqu'il est américain. Et en fait, c'est un peu un dessinateur absolu comme Jean, c'est sûr.
Ah oui, c'est-à-dire avec
il dessine
le moindre caillou dans un désert, tout est dessiné.
Voilà.
C'est vraiment des planches absolument magnifiques. Et je trouve que c'est le seul qui a réussi à marier cette ligne claire avec une profusion de détails.
Oui.
C'est des frères de deux continents différents.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ils s'aimaient beaucoup et ils se respectaient beaucoup. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir. C'est parce que c'est...
On y a cru. Puis en fait, à la dernière minute... est-ce que vous voyez d'autres dessinateurs comme ça qui ont quelque chose de Moebius en eux?
Oh, c'est compliqué. Une fois qu'on a dit que c'était le plus grand... Non, moi je pense que vraiment que Moebius a vraiment influencé des gens. Ça me paraît évident. Je pense qu'il a influencé de nombreux dessinateurs qui ont entre 40 à 50 ans, donc la génération juste en dessous de lui. Qu'on a fait l'exposition science-fiction Angoulême avec Julie Sicomaillé, c'est vrai qu'on a eu toute une génération de dessinateurs qui se revendiquent soit de Mézières, de Valérian et Laureline, soit du travail de Moebius. Donc c'est sûr qu'il y a une influence. Et actuellement, quelqu'un qui me ferait un peu penser à lui, ce serait Mathieu Babelais, avec ses univers de science-fiction. Et je sais qu'il a lu Moebius. Mm-hmm. Mais c'est difficile de faire des comparaisons.
C'est une question difficile pour la fin. Ouais.
Un grand dessinateur comme ça.
Merci beaucoup Christophe Killien, merci Loïc Chéri, merci Isabelle Giraud. Ouais. Merci également à Étienne Bertin qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest, et aujourd'hui à la technique, on le remercie également, Julien Dumont. Comme toujours pour les messages, vous avez le répondeur 01 56 43 20, profitez-en, c'est encore ouvert pendant quelques semaines. Et si vous voulez parler avec moi, suggérer des sujets ou même parler d'autres choses, la recette des crêpes et tout ça, c'est Instagram, Fred Sigrist. On se retrouve lundi pour la plus dansante des avocates, Ali McBeal.
Ceux qui ont eu peur que la bande dessinée supprime le livre sont les mêmes, c'est les mêmes que ceux qui ont eu peur que le cinéma détrône le théâtre. C'est faux. Le cinéma, au contraire, il a supprimé peut-être un mauvais théâtre, mais il a une sacrée vitalité, le théâtre, maintenant.
Et la bande dessinée a une sacrée vitalité aussi.
Ah oui.